C'est vrai, ce matin on continue dans le livre de Jonas, et merci Jean-Jacques pour l'introduction, et notamment tu nous as parlé ce matin de la grâce, et ce n'était pas par hasard, j'en suis sûr, parce que je crois que dans le livre de Jonas, ce qu'on voit peut-être le plus, pas la première lecture, mais ce qu'on voit vraiment le plus quand on s'intéresse à ce que nous dit ce livre, c'est la miséricorde, la grâce de Dieu. Comment Dieu fait grâce à des païens, à des Ninivites? Et comment Dieu fait grâce à Jonas? Jonas, pourtant, qui était un de ses prophètes et qui a eu le cœur dur. Le cœur dur face à ses ennemis, sur qui Dieu appelait un jugement. Et on le verra à la fin du chapitre de Jonas, à la fin du livre de Jonas, que ce qui a vraiment changé pour Jonas et comment Dieu montre sa grâce. Mais on va le voir aussi ce matin, la grâce de Dieu dans ce chapitre 2, et notamment cette prière de Jonas. La semaine dernière, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jonas, non? Peut-être qu'il n'était pas là la semaine passée, mais c'est sûrement une des histoires les plus connues de la Bible, même des tout-petits. Alors, on va pas relire Jonas 1, même si c'est peut-être le chapitre qu'on préfère lire, hein, parce qu'il y a l'animation, ça bouge. On voit comment Jonas s'enfonce, se détourne de Dieu, s'enfonce de plus en plus profondément. Mais on voit que Dieu ne le lâche pas. Et comme nous l'a rappelé Matthieu dimanche dernier, des fois, nous, on préfère parfois plutôt faire confiance à nous-mêmes qu'à Dieu. Et du coup, désobéir à Dieu. Mais on a tort. Parce que celui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est Dieu. Celui qui même veut plus que nous ce qui est bon pour nous, c'est Dieu. C'est que des fois, on est un peu comme Jonas, on est un peu bizarre. On dit qu'on aime Dieu, on dit qu'on fait confiance à Dieu, mais en fait, on ne le fait pas. En fait, dans notre vie de tous les jours, plein de choses témoignent qu'on ne veut pas vraiment toujours faire confiance à Dieu. Mais si on se rappelle que c'est Dieu qui veut mieux que nous, plus que nous, notre bien, nous pouvons vraiment lui faire confiance et ne pas choisir le chemin de la désobéissance. Mais alors, donc cette chute, cette descente aux enfers, on pourrait dire, de Jonas du chapitre 1, elle ne se termine pas au chapitre 1. Elle se conclut, je dirais, avec le début de notre chapitre 2. C'est quelques phrases juste avant la prière de Jonas. Et je vous invite à lire avec moi dans Jonas, au chapitre 2, ce qui s'est finalement passé pour Jonas, et puis cette prière de Jonas. Ah, enfin, on arrive à ce que vous n'aviez pas vu la semaine dernière, c'est-à-dire le grand poisson. Jonas 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Comme je le disais tout à l'heure, si on a choisi pour ce mois de juillet de prendre le livre de Jonas, je pense que c'est notamment pour une raison. Nous voulons que l'Église soit bien enseignée, qu'elle ait un corps de doctrine, comme on dit, qui soit clair, qui soit bien fondé. Mais nous voulons surtout aussi que l'obéissance fasse suite, que nous puissions avoir à cœur, envie d'obéir à la parole de Dieu et à ce qui est juste, à ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Et du coup, Jonas, c'est un peu le contre-exemple. Parce qu'il refuse d'obéir à Dieu. Il refuse, mais on voit ce matin qu'il va plier. Peut-être pas complètement. On connaît la suite de l'histoire, donc on se doute que tout ce qui s'est passé là n'était pas, voilà, un retour complet à Dieu. Mais Jonas a quand même plié. Et ce que nous avons lu ce matin met clairement en évidence à la fois la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu et en même temps sa souveraineté qui conduit encore et encore son prophète récalcitrant. Mais oui, parce que voilà où la désobéissance de Jonas l'a conduit. De chez lui au bateau, du bateau à la tempête, de la tempête dans l'eau et dans l'eau au fond du ventre du poisson. Ah mais oui, Jonas, c'était trop pénible d'aller à Ninive. Eh bien, te voilà 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Sa descente aux enfers touche le fond, on pourrait dire. Mais en touchant le fond, on voit que Jonas va aussi découvrir la grâce de Dieu d'une façon étonnante. Et il va découvrir, expérimenter la délivrance. Et le premier point que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est que, oui, Dieu est souverain, et il est le seul à pouvoir punir et protéger en même temps. Le jugement et la grâce de Dieu, c'est les deux grands thèmes de ce livre, ne sont pas incompatibles. En fait, Dieu, on le verra avec les Ninivites, retarde son jugement, et c'est encore vrai aujourd'hui, il retarde son jugement pour laisser un temps plus grand à la grâce. Et c'est tout le sens du livre de Jonas. Le livre commence, s'ouvre avec cette parole de Dieu qui annonce le jugement sur Ninive et va se conclure avec la plus belle des déclarations de la compassion de Dieu. Mais Jonas, et tu voudrais que je n'aie pas compassion pour ce peuple où tellement d'enfants ne connaissent pas leur droite de leur gauche? C'est comme ça que se finit le livre. Il appelle Jonas, il nous appelle à voir combien Dieu est bon, combien Dieu fait grâce. Ce qui frappe peut-être dans le début de ce chapitre, j'aime bien cette expression, je ne sais pas comment c'est traduit dans vos Bibles, moi c'est marqué « l'Éternel fit intervenir », ou on peut lire aussi que l'Éternel avait préparé un grand poisson. Il a préparé ce grand poisson tout juste pour cette occasion-là. Et dans un timing parfait. Vous savez, quand vous vous noyez, surtout dans la mer Méditerranée, je pense qu'on tient pas très longtemps. Je sais pas quelle est l'espérance de vie d'un homme qui tombe à la mer, mais à mon avis, c'est pas plus de quelques minutes. Ça veut dire que pendant la tempête, le grand poisson était déjà quelque part par là. Dieu a tout préparé minutieusement. Il le fait avec de grands poissons, il le fait aussi avec de tout petits poissons. Vous vous souvenez peut-être de ce passage dans l'évangile de Matthieu, où Jésus, pour payer l'impôt qui lui était réclamé, dit à Pierre, mais va chercher, va pêcher un poisson, et dans ce poisson, il y aura ce qu'il faut, la monnaie qu'il faut qu'on me demande. Il avait aussi préparé ce tout petit poisson, avec cette pièce dans la bouche, pour payer l'impôt. Dieu est ce Dieu souverain qui prépare toute chose dans l'histoire pour que tout s'accomplisse comme il le veut, comme il l'a entendu, comme il l'a prévu. Est-ce que Dieu veut ? Ne nous trompons pas. Ce n'est pas enfoncer encore plus Jonas. Ce que Dieu veut, c'est sauver Jonas de sa folie. Jonas, pour ceux qui n'auraient pas lu le chapitre 1, Jonas ne demande qu'une chose, c'est mourir. Il préfère mourir que d'obéir à Dieu. Mais Dieu le sauve de sa folie en envoyant ce grand poisson. Et quelque part, c'est comme si Dieu disait à Jonas, mais rassure-toi, ce grand poisson, c'est celui qui va te garder en vie. Ce grand poisson ne peut pas te dévorer, puisque c'est moi qui l'ai commandé. Eh oui, tu seras encore mon serviteur, et on le verra la semaine prochaine avec Jean-Jacques. Alors, on va quand même parler un peu de ce grand poisson, même si ce n'est pas le plus important de l'histoire, mais quand même, ce grand poisson, il intrigue. Les spécialistes disent que c'était sûrement pas une baleine, mais plutôt un grand cachalot. Dans la famille des grands cétacés, d'ailleurs c'est le mot qui a donné, le mot utilisé là, par grand poisson, ça donnait le mot cétacé. Alors pourquoi un grand cachalot ? Parce que il y a quelques récits assez rares, mais des récits assez récents de personnes qui ont vécu un peu la même chose que Jonas, qui ont été avalées par un grand poisson, un grand cachalot, et qui ont été récupérés vivants, même plusieurs jours, même 8 jours après avoir été avalés. Et puis j'aime bien, en fait, comme c'est aussi un peu ironique dans ce texte, j'aime bien cette blague que j'avais entendue de Fernand le Grand, pour ceux qui le connaissaient. Il disait qu'il aimait bien ce terme de cachalot parce que, en fait, Jonas, dans l'histoire, se cache à l'eau, et que Dieu dit à Jonas, maintenant, c'est assez. Donc on va retenir que c'était un cachalot, et vous retiendrez que ce n'était pas une baleine. Et pour ceux des plus jeunes d'entre nous qui ne voient pas ce que c'est un cachalot, je suis sûr, et excusez-moi, je n'ai pas les références de films de Mathieu, mais je regarde les mêmes dessins animés que mes enfants, et du coup je connais bien l'âge de glace. Qui connaît l'âge de glace ? Tous les jeunes ont levé la main. Bon, ok. Dans l'âge de glace, c'est un dessin animé avec plusieurs volets. Il y a la mamie de Sid, le personnage, on va dire, principal, ou un de ceux qui est le principal dans le film, la mamie de Sid qui a un animal de compagnie et qui s'appelle Pupus. Et en fait, les autres pensent que cet animal de compagnie est complètement imaginaire. À un moment donné, Sid, il dit, je crois qu'elle a retrouvé, parce qu'à un moment donné, il était perdu, puis à un moment donné, elle retrouve cet animal imaginaire. Et en fait, à un moment donné, il se rend compte que ce n'était pas imaginaire. C'était un énorme cachalot. Donc ceux qui ne voyaient pas ce que c'était un cachalot, des plus jeunes, pensaient à l'âge de glace, c'est le poisson, l'animal de compagnie de la mémé. Voilà. Bref, ce grand poisson, c'est quand même un peu surprenant comment Dieu agit. Mais Dieu agit comme il veut. Et retenez une chose, c'est que sa manière d'agir, c'est la meilleure. C'est toujours la meilleure. Est-ce que vous êtes prêts ? On est souvent prêts à demander à Dieu qu'il nous délivre. Mais est-ce que vous êtes prêts à le laisser agir comme lui l'entend ? Qui aurait cru que Dieu allait envoyer un grand poisson pour délivrer Jonas ? Mais on pourrait dire aussi, mais qui aurait cru que Dieu enverrait son Fils pour mourir à la croix pour nous ? Dieu agit, on pourrait dire, d'une drôle de manière. Il a une drôle de grâce pour un drôle de pêcheur. Pour de drôles de pêcheurs que nous sommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, c'était il y a 7-8 ans, je crois, il y a un missionnaire, Stephen Lungu, qui était un enfant tueur en Afrique, qui s'est converti et qui aujourd'hui est missionnaire et travaille à la réconciliation, à la paix. Il était venu donner son témoignage ici à Montbéliard. Je sais plus, c'était il y a quelques années en arrière. Et j'avais été frappé par son témoignage. Parce que ce gars, la manière dont il s'est converti, il en voulait aux chrétiens. Il était prêt à déposer une bombe dans une soirée d'évangélisation où il y avait plein de monde. Et au moment où il va déposer cette bombe, dans sa furie complète, dans sa folie, il entend un truc que dit le prédicateur. Et il s'arrête. Et Dieu le touche. Et à ce moment-là, sa vie a basculé. Tout n'a pas été réglé du jour au lendemain. Parce qu'il avait un parcours tellement compliqué, tellement dur. Mais sa vie a basculé. Qui aurait pensé, dans ceux qui priaient pour lui, que c'était comme ça que ça allait se passer? Mais Dieu agit comme il veut. On parle de la vie des autres, mais parlons un peu de notre vie. Comment est-ce que vous voyez Dieu souverain dans votre vie? C'est bien de le savoir, mais comment est-ce que vous l'apercevez? C'est bien de le croire et il faut le croire. Mais comment est-ce que vous le repérez dans votre vie? Ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse, bien entendu, le savoir, mais aussi vivre, repérer ces petits clins d'œil de Dieu où Dieu nous montre qu'il est là dans notre vie. Nous voulons savoir que Dieu est souverain, mais nous voulons aussi commencer à le vivre, à l'obéir, à le repérer dans tout ce qu'il fait dans notre vie. Dieu est souverain. Puis enfin, Jonas prie. Enfin, Jonas prie. C'est mieux tard que jamais. Mais honnêtement, si vous pouvez ne pas attendre d'être dans la même situation, c'est mieux. Dans toute l'histoire de Jonas, on voit que celui qui connaît le mieux Dieu, c'est qui? Les marins? Les Ninivites? Le roi des Ninives? Non, c'est Jonas qui connaît le mieux Dieu. Et pourtant, jusqu'à maintenant, c'est le seul qui n'a pas prié, qui ne s'est pas adressé à Dieu. Jonas ne s'est pas adressé à Dieu. Jonas a fui. Mais il connaît le Seigneur. Il le connaît réellement, contrairement aux marins juste avant, qui ont crié à Dieu, mais qui ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et dans tout le livre de Jonas, c'est le seul dont il est dit, et c'est dit ici, très clairement, qu'il pria. Pour les autres, c'est dit qu'ils ont crié, qu'ils ont imploré, mais c'est pas le même mot, c'est pas la même chose. Là, Jonas s'adresse au Dieu qu'il connaît. Et dans sa prière, ce qui est frappant, j'ai pas pu afficher le texte qu'on vient de lire, mais si vous prenez Jonas 2 et que vous ouvrez votre Bible, peut-être avec une concordance, avec les petites notes que vous avez dans votre Bible, comme j'ai fait moi hier soir en rentrant de vacances. Mais si vous prenez Jonas 2, la prière de Jonas, vous voyez que Jonas cite que des psaumes. Sa prière est remplie de morceaux de psaumes. Je vais vous lire plusieurs morceaux de psaumes et vous allez repérer que c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Psaume 18:7. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Un autre psaume, c'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Un autre, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque Éternel. Un autre psaume, « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi ». Alors pour le psalmiste, c'était une image. Pour Jonas, c'était totalement vrai, littéral. Un autre psaume encore. « Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. » Et un autre psaume encore, et ce n'est que la moitié ou le tiers. « En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Les psaumes sont d'une grande pertinence pour notre vie. Oui, parce que on peut voir beaucoup de similitudes avec ce que vit le psalmiste et ce que nous on vit. Il y a une similitude dans les expériences. Et là, on voit que pour Jonas, et c'est vrai aussi pour nous, la parole de Dieu est importante pour nourrir nos pensées. Vous savez, dans le ventre du poisson, Jonas, il n'a pas sorti son smartphone pour quel psaume pourrait me réconforter à ce moment-là. Non, non, il n'a même pas sorti sa Bible de poche étanche, la Bible du surfeur. Non, non, il n'y avait rien là. Tout ce qu'il a dit dans cette prière, c'est ce que le Saint-Esprit lui a rappelé. Ça veut dire que, et c'était une belle tradition à l'époque, cela peut-être un peu moins dans nos habitudes aujourd'hui, mais tout ce qu'il a cité là, c'est qu'il l'avait mémorisé. Et tout ça, le Seigneur lui a rappelé pour le ramener à lui. Mémoriser la parole, c'est pas bien ou bon que pour les petits-enfants à l'école du dimanche. C'est même bon pour vous, même si vous ne l'avez jamais fait, que vous avez déjà 60 ans, déjà 70 ans. Vous pouvez encore mémoriser la parole de Dieu. Pourquoi dans des moments de détresse, le Seigneur s'appuie sur cela pour vous rappeler à lui. Ce qui me frappe aussi dans la prière de Jonas, c'est que Jonas, en fait, il parle de la délivrance comme si elle était déjà accomplie. Vous avez remarqué? Mais en fait, il est encore enfermé pour quelques jours, 2 ou 3 jours, dans cette prison qu'est le ventre du poisson. Mais il parle de délivrance comme si c'était déjà fait. En fait, il semble moins implorer le secours que de rendre grâce pour le salut dont il est déjà l'objet. En fait, je crois qu'on peut associer à Jonas cette parole qu'on lit dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 4, où on voit que la foi saisit la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est par la foi que Jonas a saisi la victoire. Et en même temps, c'est vrai aussi que sa situation est déjà un sauvetage. Il serait mort si le poisson n'était pas venu. Et il a compris que si le poisson est venu le sauver, ce n'est pas pour maintenant mourir. C'est parce que Dieu l'a gardé en vie. C'est parce que Dieu va le faire revenir sur la terre ferme et va le renvoyer à Ninive. Alors Jonas peut parler de délivrance. Dans le bateau, ce que Jonas a entendu, c'est la voix du tonnerre et du jugement. Mais dans le ventre du poisson, ce qu'il a entendu, c'est la voix de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Il ne faut pas oublier que Jonas est le seul responsable de sa situation. Mais il s'élève par la foi que Dieu lui a donnée au-dessus des circonstances et il regarde à Dieu. Alors pour nous qui n'avons pas moins, mais plutôt plus de promesses que Jonas, est-ce que nous aurions moins de foi que Jonas. Il est à noter que Jonas n'a pas prié avant, comme je disais tout à l'heure, mais que là, dans le ventre du poisson, il prie. Et en fait, on peut dire, oui, c'est là que Dieu voulait amener Jonas. Comme Dieu veut nous amener à le chercher et à le trouver. Je ne sais pas quel temps vous vivez en ce moment, quelle attente est la vôtre, quelle, si on connaît certaines de vos douleurs, parce qu'on prie pour vous. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce moment d'attente, où on attend la délivrance? Est-ce que vous croyez que Dieu est celui qui, mieux que nous, plus que nous, veut notre bien? Même si nos prières, parfois, ou pour un temps, restent sans exaucement, sans réponse, Dieu les entend, les recueille. Et même si on n'a pas toujours la délivrance qu'on souhaiterait, Dieu est en train de transformer nos cœurs. Vous savez, une chose que j'ai appris moi avec Jonas, c'est que ce qui est le plus important, ce n'est pas le service. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le fait que Jonas aille à Ninive. Le plus important, c'est ce que Dieu est en train de faire dans le cœur de Jonas. Et si c'est déjà flagrant ici, ça sera encore plus dans le dernier chapitre. Dans la leçon que Dieu est en train de faire apprendre à Jonas. Ne relâchons pas nos prières. Parce que même si les choses ne changent pas, ou pas tout de suite, ce qui est en train de changer, c'est nous. C'est nous. Et dans cette prière, Jonas apprend une grande leçon d'humilité. Il est totalement vulnérable, mais il reconnaît que c'est Dieu qui l'a emmené là où il est. Et c'est de Dieu seul qu'il peut espérer la délivrance. Et la manière dont Dieu sauve Jonas commence à nous montrer comment Dieu va accorder sa grâce aux Ninivites. Si Jonas, au plus profond de son égarement, de son entêtement, a bénéficié de la grâce de Dieu, comment pourrait-il refuser ensuite d'aller annoncer le message de Dieu aux Ninivites? Alors, Jonas apprend une grande leçon d'humilité, mais j'ai dit à un moment donné, tout à l'heure au début, que le travail n'était pas complètement fini. Et on peut le dire parce qu'on voit que à la fin du livre, dans Jonas 4, que Jonas est révolté. Il est amer contre Dieu. Donc, tout n'a pas changé dans son cœur. Mais pour nous, des fois, c'est pareil. On plie le genou à un moment donné parce que on est là et on est obligé de reconnaître que Dieu a agi dans notre vie. Mais tout n'a peut-être pas encore changé complètement au fond de notre cœur. Jonas résiste encore un peu. J'ai l'impression de le voir avec le verset 9. Parce qu'il dit, cette petite phrase, j'ai l'impression que ça n'a rien à faire avec le reste. « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. » Il cite aussi un psaume. Mais je pense qu'en arrière-plan, il a encore cette haine contre les gens de Ninive. Il sait que Dieu va le conduire à aller prêcher aux Ninivites. Et il commence sûrement à se douter que Dieu va accorder sa grâce aux Ninivites qui vont se repentir. Mais Jonas ne veut pas ça. Il lutte contre ça. Même s'il est prêt, c'est vrai, à reconnaître que c'est Dieu qui le sauve, que c'est le Dieu de grâce qui intervient pour lui. Dieu est un refuge. Jonas prie ce Dieu qui seul peut le secourir. Vous savez, trouver un abri au bon moment, on pourrait dire ça pour Jonas, il a trouvé un abri au bon moment, c'est bien. Mais connaître un abri où l'on vit, c'est 10 fois mieux. Dieu est un secours en tout temps, même dans les endroits les plus profonds. Et ce que Dieu veut, c'est que vous soyez continuellement sous son abri, pas juste quand ça va mal. Dieu est le seul sauveur. Et on voit dans Acte 4, verset 12, par exemple, un parallèle qui dit que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu est le seul sauveur, et cela est devenu vrai pour tous et pour chacun de nous en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur, car tout simplement, un seul est mort pour nos fautes et est ressuscité. Rien de plus. On n'est pas meilleur que les autres, comme avait beaucoup tendance à le croire le peuple d'Israël, parce qu'on a un Dieu, parce qu'on a une théologie qui serait plus grande, etc. Non. On est sauvé parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Point à la ligne. Et on ne fanfaronne pas quand on dit ça. Alors peut-être que depuis le début, certains se disent, oui, mais cette histoire de Jonas, cette prière, il y a des belles choses, il y a de belles leçons. Mais est-ce que cette histoire s'est réellement passée? C'est peut-être juste un peu une parabole, un enseignement. Oui, Jésus a fait pas mal de paraboles, pourquoi ça serait peut-être pas ici aussi une parabole? C'est souvent, en tout cas, c'est une des plus grandes polémiques sûrement dans l'Ancien Testament avec ce livre de Jonas. C'est très débattu. Je ne vais pas faire du tout ici l'étalage de tous les arguments, ça ne sert à rien du tout. Mais j'aimerais juste dire une chose. Jésus lui-même s'est comparé à Jonas. D'ailleurs, Jonas est le seul prophète à qui expressément Jésus se compare. Il n'y a pas d'autre. D'autres l'ont comparé, ont comparé Jésus à d'autres prophètes, mais Jésus lui-même ne s'est comparé qu'à un seul, à Jonas. Et il va dire qu'il est plus que Jonas. Si vous voulez le lire avec moi, c'est dans Matthieu 12, au verset 38 et suivant. Matthieu chapitre 12, verset 38 et suivant. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Jésus, de sa propre bouche, dit plein de choses. Jonas, c'était un vrai personnage, ça personne ne le conteste. Mais Jésus dit que ce que Jonas a vécu, c'est vrai. Il ne comparerait pas sa mort, à sa résurrection, à une histoire inventée. Il dit que la repentance des Ninivites est vraie. Sinon, il ne dirait pas que les Ninivites repentis se lèveraient pour condamner cette génération mauvaise et adultère. En fait, tout ce que dit Jésus dit que cette histoire est vraie. Alors pourquoi Jonas est un signe pour cette génération et peut l'être aussi pour notre génération? Dans le livre de Jonas, Jonas est fustigé pour son indifférence et son cœur dur, son manque de compassion pour les autres humains. Le livre est écrit pour que... Pour qui en fait? Pourquoi? Le livre, il est écrit pour que d'autres en Israël ne demeurent pas dans cette indifférence endurcie, mais comprennent la compassion de Dieu. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de l'époque de Jonas que Dieu a à cœur toutes les nations. On le voit déjà avec Abraham, qu'il veut bénir toutes les nations. C'est pas seulement là le début de Dieu qui se dit « Mais tiens, maintenant, je vais m'intéresser aux autres. » C'est puis le début que Dieu s'intéresse à tous. Jonas, en fait, il est parfaitement à l'image de son peuple. Parce qu'il est endurci et qu'il a subi un châtiment pour cet endurcissement. Et cette noyade, presque noyade, Jonas, représente le châtiment et la dureté du cœur d'Israël. Finalement, Jésus, c'est aussi un peu cela. Jésus, on le voit dans les évangiles, il représente le véritable Israël. Et il porte le châtiment d'Israël notamment. Le signe de Jonas, Jésus, il l'assume. C'est lui-même, dans sa mort, dans sa résurrection, parce qu'il porte le péché, même le péché de la dureté de cœur, et qu'il rend possible que tous en soient délivrés. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire, mais j'en fais partie. Une fois dans ma vie, j'ai coulé, littéralement, au fond de l'eau. Je l'ai peut-être déjà raconté ici, je ne sais plus. Dieu m'a sorti. J'étais en train de me noyer. J'ai cru que c'était fini. Je me débattais et à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais plus de force. J'ai cru que c'était fini. Et Dieu a envoyé, alors pas un poisson, 4 amis. Il en fallait au moins 4 pour me sortir de l'eau. Et Dieu, ce jour-là, m'a appris une leçon. Moi qui me plaignais, mais pourquoi tout ça est arrivé? Dieu m'a montré que, en parallèle, en même temps, malgré moi, Dieu utilisait ce qui s'était passé pour toucher le cœur d'autres jeunes qui étaient là et qui avaient assisté à ma noyade. Malgré moi, quelque part, Dieu agissait dans le cœur des autres, de ceux qui se perdaient. Est-ce que j'avais besoin d'apprendre ce jour-là, comme Jonas? C'est que ce n'était pas mon service pour Dieu qui comptait. C'est que c'était mon cœur pour Dieu. Est-ce que réellement, je suis prêt à laisser tout ce qui est mauvais dans mon cœur au pied de la croix? On est des fois un peu fou, hein, parce qu'on s'accroche à des choses qu'on sait être mauvaises pour nous. On le sait, mais on ne veut pas en décrocher. Alors simplement pour conclure, je vous rappellerai ceci. Dieu est souverain, croyons-le. Cherchons à le repérer. Demandons à Dieu qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous rappelle qu'il est ce Dieu souverain. Qu'il retarde son jugement pour qu'un temps de grâce soit encore possible pour tous. Est-ce qu'on est dans cette dynamique? Est-ce qu'on est en train de vraiment se placer dans ce chemin? C'est bien de savoir que Dieu est souverain. Est-ce que nous sommes en train de le vivre au quotidien? Alors demandons-le à Dieu. Dieu est un puissant secours. Il est jamais, jamais dépassé par les événements, même s'ils sont extrêmement douloureux. Alors croyons-le. Repérons-le. Recherchons à voir quand est-ce qu'il nous montre ça. Vivons-en. Et s'il vous plaît, allez à Dieu avec foi dans la prière, pas seulement quand il y a un gros poisson. Prenons le temps de nous recueillir, prenons plus de conscience de la grandeur, de l'amour de Dieu. Prenons le temps de lui dire notre adoration pour tout ce qu'il est. Prenons aussi le temps de lui dire ce qui est sur notre cœur. Ce qui m'a frappé ces derniers mois, on a lu Job, pour ceux qui suivent le plan de lecture qu'on a proposé, on a lu Job sur mai et juin. Ce qui m'a frappé dans tous ces débats entre Job et ses amis, c'est pas tellement, je ne me suis pas attaché à la consistance des arguments, etc., mais c'est tout simplement comment Job, il ouvre son cœur. Et ça, Dieu ne lui reproche pas. Il ouvre son cœur à ses amis et à Dieu. Est-ce que des fois, on ne peut pas garder cela, notre cœur pour nous ? On a besoin de proclamer qu'il est Seigneur et Sauveur. On a besoin de regarder à Jésus-Christ, que Jonas ne connaissait pas encore. Mais c'est lui qui a été maudit à notre place, à ma place, qui a été condamné sous la faim, sous la croix, afin que nous ne soyons pas condamnés. Je vous invite à prier.